Pauline Pucciano. La cité hantée. Partie 2. Chapitre 11. Possession. Cela faisait maintenant plusieurs semaines que Joris vivait dans la peur. Non pas cette peur du maître, familière, qui lui faisait chérir jadis les caprices de son tyran, guetter les détours de ses désirs et la courbe de ses humeurs. Non, la peur sourde et aveugle de la bête terrassée, celle qui mouille les tempes et les mains, qui fait ployer les chines et regarder par en dessous, celle qui vous transforme en proie. Il déployait toute l'énergie possible pour cacher cette émotion au frère sombre, et vivait en grande partie sur ses acquis, et, en particulier, sur l'acquis de leur peur à eux. Il les évitait et déléguait de plus en plus de tâches pour se retrouver seul, car son face-à-face avec Sornar absorbait tout son être et ne lui laissait plus le moindre répit. Au début, le maître avait été comme un flot de pouvoir anarchique, comme un vent que rien ne dirige, un orage sur la mer, dont la puissance inutile se perdait dans le vide. Et puis, Joris l'avait rappelé à la conscience de soi, et le flot s'était fait arme, le vent s'était fait tornade, l'esprit se ressaisissant lui-même avait pris conscience de sa force et avait recouvré une volonté. Joris, qui avait abdiqué la sienne, savait que la volonté était source de frustration, et il comprenait fort bien ce qui était arrivé à l'esprit de Sornar. Découvrant sa propre monstruosité, il s'était pris pour un dieu, mais son étrange corps immense connaissait lui aussi des limites. Il avait enragé de ne pouvoir rien construire, rien façonner, de ne pouvoir s'exprimer comme autrefois aux yeux de tous. Il avait joué à détruire, et cela apaisait parfois son énorme colère. Mais détruire ne pouvait satisfaire à long terme un esprit comme celui de Sornar, habitué aux hauteurs intellectuelles, aux exaltations de la recherche et à l'ivresse du pouvoir. Et voilà qu'il n'avait vaincu la mort que pour demeurer prisonnier d'une dimension étrangère, où ses fabuleuses qualités ne s'exprimaient plus que de la manière la plus physique, la plus brutale et la plus imprécise. Il faisait tomber des pierres et se lever le vent. Il régnait sur le gel et l'évaporation. C'était un piètre royaume qu'il méprisait du plus profond de sa majesté et dont il ne pouvait chercher qu'à s'évader. Un jour, sans crier gare, l'esprit de Sornar pénétra dans celui de Joris. Ce fut un viol, d'une douleur extrême, d'une violence inouïe. Sornar s'engouffra d'un seul coup dans le corps de Joris, dont tous les organes se mirent à souffrir simultanément. C'était la sensation à la fois que le foie et le rein allaient éclater, que les veines charriaient trop de sang et menaçaient rupture, que le cerveau dilaté se heurtait aux parois crâniennes, que les poumons opprimés ne respiraient plus qu'avec difficulté. Joris fut pris de vomissements terribles, son corps tout secoué de spasmes qui ne le soulageaient pas et ne faisaient qu'accroître sa douleur. Et puis, dans ce qu'il ressentit comme une sorte de mort interne, la liaison intime, originelle, de la conscience et du corps fut déchirée, comme si la moelle épinière, horriblement greffée sur autre chose, se mettait à transmettre des ordres étrangers. Les sensations ne parvenaient plus à Joris, et son cerveau ne commandait plus ses mouvements. La douleur s'était arrêtée, mais l'épouvante profonde qui la remplaça fut encore plus difficile à supporter. Joris était mu, comme une poupée de chair, par l'esprit de Sornar, et sa propre conscience terrifiée était plongée dans les ténèbres. Il n'entendait plus, ne voyait plus, ne sentait plus, ne pouvait plus parler. Il était quelque part au fond de sa propre tête, sans aucun lien avec le monde extérieur, dans une solitude hébétée. Cela dura longtemps. Puis l'esprit de Joris se ressaisit, se ramassa, se banda, et parvint à revenir dans son propre corps. Il expulsa Sornar et se tint sur ses gardes, mais l'esprit ne communiqua plus avec lui ce jour-là, ni les jours suivants. Ces jours furent parmi les plus sombres de l'existence de Joris. La terreur et la révolte se disputaient son âme, mais il concevait aussi une culpabilité intense. N'avait-il pas désobéi au maître ? N'avait-il pas repoussé son intrusion en affirmant sa volonté propre contre la sienne ? L'idée que Sornar pût l'abandonner lui était infiniment douloureuse, mais l'idée qu'il pût revenir prendre possession de son corps lui apparaissait encore plus redoutable. De quelque côté qu'il se tournât, rien ne venait lui apporter la consolation dont il était si avide. Il décida cependant de préparer l'enfant. Il était encore très petit, et ce corps qui possédait toutes les tares de l'enfance et de l'immaturité ne conviendrait sûrement pas à Sornard, mais il tâcherait de lui persuader de s'en contenter. Au moins, il ne se révolterait pas, et son esprit personnel, à peine existant puisqu'il ignorait le langage, ne serait pas une barrière. Un jour, après l'entraînement physique qu'il imposait à l'enfant, il le fit avancer avec lui dans la cathédrale et décida de rassembler son courage. « Maître ! Maître ! » Le silence spirituel était assourdissant, et pourtant l'immense présence était là, diffuse, qui imprégnait toute chose. « Maître, je voulais vous inviter à prendre possession de votre nouveau corps. » Joris ne s'était pas exprimé à haute voix, et l'enfant n'avait pas entendu ses paroles. Il regardait en tous sens comme un petit carnassier intelligent, avec des mouvements rapides et nerveux. Il bougeait la tête souvent, et accomplissait, à demi courbé sur lui-même, des mouvements circulaires qui n'avaient rien d'humain. Il n'était jamais venu dans la cathédrale, et cet espace aux vastes dimensions lui donnait de l'inquiétude. L'environnement était perçu comme hostile, et l'enfant s'agitait plus que de coutume. Il restait non loin de Joris, auquel il vouait une certaine forme d'affection. Nulle caresse, nul contact physique inutile n'avait jamais eu lieu entre eux. Cependant, cette main qui le nourrissait et le châtiait, qui le guidait et l'entraînait, était pour lui tout un monde. Il ne comprit pas, et ne chercha pas à comprendre, pourquoi Joris l'avait mené ici. Et ne comprit pas non plus pourquoi, quelque temps après, Joris le reconduisit dans son antre. Sornard avait dédaigné son appel, et c'était la première fois que cela arrivait depuis son réveil. Joris, cette nuit-là, se morfondit plus encore que de coutume. Il renouvela son appel chaque jour qui suivit, sans se lasser, mettant dans ce nouveau rituel toute sa constance et toute sa fidélité. Un jour, sans doute, le maître lui reviendrait. Il reconstruisait toute son existence sur cette nouvelle attente. Et il faisait taire en lui la voix ténue qui espérait, très secrètement, qu'il ne reviendrait jamais.